Je vous invite à aller avec moi à la rencontre de deux personnages que tous vous connaissez et qui, dont l'histoire nous est consignée dans le livre de la Genèse, au chapitre 39e. Genèse 39e, où nous lirons à partir du verset 7 et jusqu'au verset 20 inclus. Genèse 39, verset 7 à 20. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Joseph refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans ma maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment lui ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucune personne de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amenés en Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Interpellant son fils, et ça nous est rappelé au chapitre 37 du même livre, Jacob dira un jour à Joseph, « Va, je te prie et vois. Si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. » Et alors que Joseph avait toutes les raisons, mais alors les meilleures, pour ne pas répondre à l'appel de son père, pour ne pas aller à la rencontre de ses frères, il va pourtant obéir et s'engager dans une marche de plusieurs jours qui allait le conduire tout d'abord à Sichem, puis à Dothan, où à cause de la jalousie et de la haine viscérale de ses frères, il se verra tout d'abord dépouillé par eux de sa tunique, jeté dans une citerne vide, puis vendu pour 20 pièces d'argent à des Ismaélites, des marchands ismaélites qui passaient par là et qui l'emmenèrent avec eux en Égypte. Tel fut le prix payé par Joseph pour son obéissance, rejeté par les siens, se retrouvant abandonné à son propre sort, vendu tel une vulgaire marchandise et finalement au service en tant qu'esclave de Potiphar. Potiphar, nous est-il dit, était un officier du roi, le garde des prisonniers du roi. Et Potiphar, très rapidement, va discerner et qu'il y avait quelque chose de différent dans la vie de Joseph qu'il avait de la réussite, parce que non seulement Dieu était en lui, mais il agissait au travers de lui. Et c'est ainsi que nous pouvons lire au verset 3 que Potiphar vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Aussi, point d'étonnant que Joseph trouvera alors grâce aux yeux de son maître, qu'il l'établira sur sa maison, lui confiera tout ce qu'il possédait, et l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ce qui naturellement nous amène à penser ou à dire que malgré tous les déboires qu'avait connus Joseph jusqu'alors, finalement, sur les bords du Nil, il n'avait pas trop mal réussi, qu'il était parvenu à tirer son épingle du jeu. Mais voyez-vous, lorsqu'on lit les textes qui suivent, les chapitres qui suivent, nous sommes obligés de nuancer quelque peu nos propos. Car s'il est indéniable que Dieu avait béni Joseph, et abondamment, et qu'il lui a fait réussir tout ce qu'il entreprenait, il n'en demeure pas moins que les épreuves ne lui ont pas été épargnées. Et ce qui est surprenant, c'est que tout a commencé par un regard, par le regard de la femme de Potiphar. Nous l'avons lu d'entrée dans ce texte. Après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph. Elle porta les yeux sur Joseph. Aujourd'hui, comme vous le savez, rien n'est plus caché ni refusé à notre regard. Et c'est pourquoi tous ceux qui nous entourent nous diront, mais finalement, quel mal y avait-il à ce que cette femme pose son regard sur Joseph? C'est quelque chose, le regard, c'est quelque chose d'anodin, banal aussi. Pourquoi la montrerions-nous du doigt? Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Et pour peu qu'ils connaissent ce passage, pour l'avoir lu ou entendu une fois de leur vie, ils pourraient nous dire, mais elle bénéficiait des circonstances les plus atténuantes. Oui, elle bénéficiait des circonstances les plus atténuantes. Car jour après jour, qui était celui qui se présentait devant elle? C'était un jeune, quelqu'un dans la force de l'âge. Il est dit au verset 6 qu'il était beau de taille et de figure. Il avait donc été gâté par Dame Nature, quelqu'un qu'on avait difficile à oublier, et par surcroît, tout lui réussissait. Il bénéficiait des circonstances plus qu'atténuantes. Et c'est là un discours que l'on pourrait entendre à ce sujet. Mais ce qui est important pour nous, en tant que chrétiens, c'est de savoir non pas ce que disent les gens autour de nous, mais ce que Dieu nous en dit. Que pense-t-il de ça, du regard de cette femme? Que nous enseigne-t-il? Et sinon que tous les malheurs, toutes les épreuves passées et présentes de notre humanité, toutes ces guerres et les bruits de guerre, les violences que nous connaissons, tout cela a commencé par un regard, par le regard d'une femme, d'Ève, qui sollicitée, tentée par Satan, va lever son regard, va jeter son regard sur l'arbre qui était défendu de toucher. Il est dit dans le texte, elle vit qu'il était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence, puis elle prit de son fruit et en mangea et en donna à son mari. Et la suite de cette histoire, tous nous la connaissons. Depuis lors, le monde vit sous le joug du péché et de la condamnation divine. Et la suite de cette histoire, tous nous la connaissons. Depuis, le monde vit sous le joug du péché, sous la condamnation de Dieu. Et c'est pourquoi il me semble que s'il est une leçon qu'il nous faut surtout retenir au sortir de ce lieu de culte, cette leçon est la suivante. Du regard de convoitise, et quel que soit d'ailleurs l'objet de celle-ci, du regard de convoitise à la chute, il n'y a qu'un seul pas. Et ce n'est pas les exemples qui manquent dans la Bible. Et je n'en retiendrai qu'un ce matin, celui de Lot, pour rappeler que toutes ces misères, tous les malheurs qu'il a connus dans sa vie, l'infamie et finalement la déchéance, tout cela a commencé par un regard. En effet, pour prix de la paix, lorsque Abraham lui dira « Il est temps que nos routes se séparent », pour que s'arrêtent toutes ces discussions, toutes ces disputes entre nos serviteurs, parce que les terres sur lesquelles nous nous trouvons sont trop petites pour nos troupeaux respectifs, il est dit que Lot leva les yeux. Il leva les yeux et il vit que toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée et qu'elle était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel. Lot leva les yeux et vit. Sans tarder, tout naturellement, et chacun d'entre nous, nous aurions fait de même, Lot s'est installé dans cette région. Mais malheureusement, et à ses dépens, il allait découvrir que cette terre arrosée qui était là comme un jardin de l'Éternel allait devenir un cauchemar pour lui. Pourquoi ? Eh bien, il y a pour cela trois raisons. La première, alors qu'il vivait et prospérait dans ce pays, dans cette plaine, il allait connaître une guerre qui a été initiée par Kedar Laomer et ses troupes qui vont l'enlever, l'emmener avec eux. Et ce jour-là, Lot va perdre ce qu'il y a de plus précieux aux yeux des hommes, la liberté. Heureusement que cette liberté, il allait la retrouver suite à l'intervention d'Abraham et de ses plus braves serviteurs. Lot avait perdu ce jour-là la liberté. Mais il y a une deuxième chose que nous pouvons ajouter à cela, c'est que tout le temps où Lot a vécu dans cette région de Sodome et de Gomorre, il n'a connu que de tristesse et de tourments. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous le rappelle au chapitre 2, où il écrit ceci. Lot était profondément attristé à cause de la conduite de ses habitants sans frein dans leur dissolution et qu'il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il tourmentait journellement son âme. Il était profondément attristé. Assurément, le séjour de Lot dans cette terre tant convoitée a été loin d'être un long fleuve tranquille pour lui. Le tourment, la tristesse, auxquels viendront s'ajouter ses larmes lorsqu'il perdra sa femme dans les circonstances que vous connaissez, sa femme transformée en statue de sel suite à la destruction de Sodome et de Gomorre. Mais il est une chose qu'il nous faut aussi rappeler au sujet de ce cauchemar qu'a connu Lot, c'est l'inceste. Cet inceste qu'il allait commettre avec ses deux filles. Deux filles qui lui donneront l'une Moab et l'autre Ben-Ami, qui allaient être les ancêtres des Moabites et des Ammonites, deux peuples ennemis jurés d'Israël. Oui, du regard à la chute, il n'y a bien souvent qu'un seul pas. Et ce matin, si le temps nous le permettait, nous pourrions encore parler de tous ces regards qui ont accompli tant de dégâts, des conséquences désastreuses qu'ont engendré par exemple le regard d'Acan, consigné dans le livre des juges, de celui de Samson, de David et de tant d'autres, et j'en passe. Et ces exemples sont là, non pas pour étoffer les pages de la Bible, mais pour nous avertir, pour nous mettre en garde que le regard qui ne s'inscrit pas dans la volonté de Dieu a toujours pour vocation de nous conduire plus loin sur le chemin de la défaite, plus loin sur le chemin du péché. Et le regard de la femme de Potiphar, parce qu'il faut bien y revenir, le regard de la femme de Potiphar est plus explicite à cet égard. En effet, après avoir, comme dit le texte, posé les yeux sur Joseph, elle va, jour après jour, le dévorer de ses yeux, pour finalement, sans vergogne, l'inviter dans son lit. « Couche avec moi !» Il y a donc là une progression dans le regard de cette femme. « Couche avec moi !» lui dira-t-elle. Et c'est une invitation qu'elle ne cessera de renouveler et nullement ébranlée, jusqu'au jour où, nullement ébranlée dans sa conscience, elle le saisira par son vêtement et lui proposera une énième fois « Couche avec moi !» Du regard à la chute, il n'y a bien souvent qu'un seul pas. Mais ce pas, nous le voyons, Joseph va refuser de le franchir. Et il le fera dès le tout début, dès la première fois où cette femme va l'aborder pour l'inviter dans son lit. Mais il est dit dans le texte qu'il refusa. Il refusa, mais il fera bien davantage encore. Il va lui expliquer le pourquoi de sa démarche. Il lui dira tout d'abord qu'il se refuse de tromper son maître. Il veut être loyal à son égard. Non pas parce que cette femme était pas assez jolie, qu'elle ne répondait pas à ses goûts, ou alors au canon de la beauté qui prévalait sur les bords du Nil. Non, il ne voulait pas être déloyal envers son maître. « Mon maître, lui dira-t-il, ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient, excepté toi. Comment lui ferais-je un aussi grand mal ?» Comment lui ferais-je un aussi grand mal ? Et d'ajouter... Et pécherai-je contre Dieu ? Et ce jour-là, Joseph, ce jeune homme de 17 ans, fera la preuve qu'en lui était déjà profondément ancrée la pensée, cette notion entre le bien et le mal, de ce qui est précieux et de ce qui est vil aux yeux de Dieu. Comment lui ferai-je un si grand mal ? Et pécherai-je contre l'Éternel. Combien on est loin, n'est-il pas vrai, de ce quoi nous assistons de nos jours dans un monde sans Dieu, où le libertinage sexuel sous toutes ses formes, et je n'ai rien à vous apprendre à ce sujet, est monnaie courante. Aussi aller dire à ceux qui nous entourent que c'est un acte qui déplaît aux yeux de Dieu, qui est répréhensible, voire même une abomination, ils vous riront certainement au nez, vous traiteront de regard, vous demanderont de quelle planète vous êtes tombé. Et il en est même quant à la loyauté envers quelqu'un, envers la parole donnée, qui est si aisément bafouée, sacrifiée, lorsque des intérêts doivent être sauvegardés, lorsque mes intérêts doivent être sauvegardés. Joseph n'accordera aucune place, ni à l'ambiguïté, ni à la compromission dans ses rapports avec la femme de son maître. Et cette ligne de conduite, il la maintiendra jusqu'au bout. même s'il faudra un jour se retrouver sur la route dépouillé de ses vêtements. Et selon ce que nous l'avons lu tout à l'heure, il lui laissa ses vêtements dans la main et s'enfuit dehors. Mettant ainsi en pratique ce que l'apôtre Paul dira un jour à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Fuir, se séparer, ne pas toucher, s'éloigner, tels sont les mots d'ordre parmi tant d'autres que nous trouvons dans la Bible et dont nous ne pouvons faire l'économie. Si je veux plaire à mon Dieu, si je veux lui être agréable, si je veux avancer sur le chemin de la foi, Joseph, rappelons-le, ce chemin, il l'a suivi jusqu'au bout. Malgré tout ce que ça lui a coûté, et nous savons ce qu'il a dû subir après ce refus qu'il avait adressé à la femme de Potiphar. Il lui faudra tout d'abord affronter son mensonge, mensonge qui est répété, qui est dit tout d'abord aux serviteurs, à tous ceux qui étaient dans sa maison, puis à Potiphar. Tout naturellement, il devra subir également la colère de son maître, et on peut le comprendre. Et puis, injustement, il sera incarcéré durant non pas un jour, non pas un mois, non pas un an, mais 13 longues années. Nous savons que c'est à l'âge de 30 ans qu'il sortira de prison. Et tout cela pour rappeler, s'il le fallait encore, que rester fidèle à Dieu, que vouloir l'honorer et le glorifier est loin d'être chose facile. Il y a toujours un prix à payer. Et ce prix nous est rappelé par Jésus lui-même, qui dira, qui veut me suivre, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Joseph a fait ce choix, le choix de prendre sa croix. Aussi Dieu va-t-il l'honorer jusqu'au bout. Il est écrit dans les versets 20, 21, 23 de ce même chapitre, dont nous avons lu un court extrait, que là où les prisonniers du roi ont été enfermés, l'Éternel fut avec Joseph, étendit sa bonté sur lui et lui donna de la réussite dans ce qu'il faisait. Et il en fut ainsi durant les 13 années de son incarcération. Jamais Dieu ne l'a oublié, jamais il ne l'a abandonné. Et c'est pourquoi il sera aussi celui qui va présider à sa libération et le consolera de toutes ses peines. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est Joseph lui-même qui le dit. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père, et m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et s'il est vrai que la fin de ce verset, la fin de ce témoignage de Joseph fait référence aux deux fils que lui enfanta Asnath, la fille de Potiphéra, un prêtre, il n'en demeure pas moins que la première partie de ce verset nous laisse discerner, annonce entre les lignes les honneurs qui lui sont accordés par le pharaon d'Égypte, dans des circonstances que nous connaissons tous et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais dès sa sortie de prison, Pharaon dira à Joseph, « Puisqu'il n'y a personne aussi intelligent que toi, je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Tout mon peuple obéira à tes ordres, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et ces paroles, Joseph les confirmera plus tard à ses frères, « Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et il obéira à tes ordres et personne sans toi ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte.
Waouh!
Waouh! Oui, Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais il nous est enseigné qu'il en est ainsi non seulement pour ceux qui l'honorent de leur bouche et de leurs lèvres, mais surtout pour ceux qui le craignent et séparent ce qui est précieux de ce qui est vil aux yeux de Dieu. Bien des siècles plus tard, Paul revient sur ce sujet, sur ceux qui ont appris à séparer ce qui est bien, ce qui est mal aux yeux de Dieu. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et cet enseignement de Paul rejoint finalement celui de Jérémie qui, en son temps, dira au peuple d'Israël de la part de Dieu, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras un vase d'honneur, tu seras sanctifié, tu seras utile à ton maître, tu seras propre à toute bonne œuvre, tu te tiendras devant moi, tu seras comme ma bouche. » Et j'ai envie de redire « Waouh !» Ce sont là des promesses immuables de notre Dieu. Et elles procèdent, nous le savons, de son amour et de sa grâce. Mais n'oublions jamais qu'elles sont indissociables d'un conditionnel. D'un conditionnel tout autant immuable. Et ce conditionnel, l'apôtre Paul, dès ses premiers mots, nous le donne, tout comme le prophète Jérémie. Si donc quelqu'un se conserve pur, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Alors si j'ai bien compris, il y a aussi un conditionnel, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu ce qui vient d'être rappelé, la question devrait alors être pour moi, pour nous, la suivante. Est-ce là mon désir? Dieu dit si, mais est-ce là mon désir? Est-ce là ma volonté? Me conserver pur pour Dieu, afin de le glorifier, de me sanctifier. Si ma réponse ce matin est oui, alors il me reste deux choses. La première, c'est de me souvenir que du regard de convoitise, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelque ordre que ce soit, du regard de convoitise à la chute, il n'y a qu'un seul pas. Et si je ne veux pas, tout comme Joseph, franchir celui-ci, alors il ne me reste plus qu'une chose, c'est de lever le regard vers Dieu, m'attendre à sa délivrance, m'attendre à son aide, à son soutien. Le psalmiste dira au chapitre 121e, et j'aurais bien aimé que l'on chante ce cantique. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours de Dieu me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Vient alors une série de promesses. Je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il gardera ton départ et ton arrivée. Nous sommes au début d'un départ de cette année nouvelle. Et c'est avec cette promesse que je veux à mon tour vous souhaiter une bonne année. Et cette année sera bonne si j'apprends à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, aux yeux de Dieu. Amen.